et à demain. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue, Jacques Aristide avec vous dans Le Monde aujourd'hui en ce mercredi 15 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique. À la une de l'actualité ce soir, de nouvelles frappes aériennes dans la région de Beni au moment où l'ONU indique qu'elle va documenter d'éventuelles violations des droits de l'homme lors de l'offensive de la RD Congo et de l'Ouganda contre les rebelles ADF. La situation au Mali, premier tête-à-tête prévu lundi prochain à Bamako entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le chef de l'État français, Emmanuel Macron. L'ONG Amnesty International dénonce le danger des réinstallations forcées de milliers de personnes au Nigeria. Le Rwanda, le Kenya et le Maroc détectent leur premier cas d'Omicron, variant du Covid-19 qui continue de se propager à vitesse grand V aux quatre coins du globe. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. L'ONU indique qu'elle va documenter d'éventuelles violations des droits de l'homme lors des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises en cours dans l'est de la République démocratique du Congo contre les rebelles du groupe ADF, les forces démocratiques alliées. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Selon Aziz Thioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les bombardements indiscriminés peuvent avoir causé des dommages collatéraux et porté atteinte à la vie et à l'intégrité physique d'individus qui se trouvaient dans cette zone qui est une zone agricole. Toutefois, pour que ces équipes puissent mener des enquêtes sur le terrain, M. Thioy estime qu'il faut attendre que des éléments concrets soient disponibles. Mardi, l'armée ougandaise a annoncé avoir attaqué 3 bases des rebelles ADF. Les rebelles sont accusés par Kampala d'être responsables de récents attentats sur le sol ougandais revendiqués par l'organisation État islamique. Implantée depuis 1995 dans l'est de la RDC, près de la frontière ougandaise, les ADF y sont considérés comme le plus meurtrier des groupes armés sévissant dans cette région et responsables du massacre de milliers de civils.
L'entrevue est déjà décrite comme lourde d'enjeux. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a prévu de rencontrer pour la première fois le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Ce sera lundi prochain à Bamako. Le tête-à-tête va se dérouler dans un climat de haute tension entre Paris et la junte militaire au pouvoir au Mali. Les précisions avec John Linden.
Cette visite intervient alors que les relations entre Paris et Bamako se sont tendues ces derniers mois. Il existe 2 sujets de friction avec Bamako, les contacts avec la société paramilitaire russe Wagner et le calendrier politique de la transition, a tenu à souligner dans un entretien le commandant de Barkhane, le général Laurent Michon. La France a averti que le déploiement de mercenaires russes au Sahel serait inacceptable après le redéploiement de la force Barkhane qui a quitté mardi Tombouctou après environ 9 années de présence dans cette ville du nord du Mali. Pour Paris, il est urgent que la junte militaire rende le pouvoir aux civils. Emmanuel Macron évoquera la question avec son homologue malien. Au terme de cette entrevue, le président français partira célébrer Noël sur la base de Gao dans le nord-est du pays avec des soldats français déployés au sein de la force anti-djihadiste française Barkhane. Une force en pleine restructuration et dont les effectifs devraient passer de 5 000 actuellement à 3 000, voire 2 500 d'ici 2023.
Amnesty International tire la sonnette d'alarme après la décision des autorités nigérianes de fermer les camps de déplacés internes au Nigeria. Selon l'organisation, des milliers de personnes dans le pays courent le danger d'être réinstallées de force dans le nord-est, théâtre d'attaques djihadistes. Le point avec Abdourahman Dia.
D'ici fin décembre, les autorités de l'État du Borno, le plus touché par le conflit, prévoient de fermer tous les camps de déplacés dans la capitale Maïdougouri puis dans tout l'État d'ici 2026. Cette décision vise à encourager la population à reprendre l'agriculture, car la plupart des déplacés dépendent de l'aide humanitaire. Dans un rapport basé sur 38 entretiens, Amnesty a exprimé son inquiétude pour la sécurité de milliers de déplacés internes en danger face aux réinstallations forcées à Borno. Le retour forcé des personnes déplacées dans des villages qui ne sont pas sûrs constituerait une violation de la responsabilité du gouvernement nigérian de protéger la vie des civils, a déclaré Osaie Ojigo, directrice d'Amnesty International Nigeria. Il est absolument choquant que des gens ayant déjà tant souffert soient encore plus exposés à d'horribles éventuelles violations et abus, a-t-elle poursuivi. Au cours des 12 dernières années, plus de 2 millions de personnes ont dû fuir le nord-est où les djihadistes liés au groupe État islamiste et à son rival Boko Haram multiplient les attaques.
En Afrique du Sud, un tribunal ordonne le retour en prison de l'ancien président Jacob Zuma. La haute cour du pays a invalidé aujourd'hui la libération conditionnelle qui lui a été accordée en septembre dernier pour raisons médicales. Les avocats de Jacob Zuma ont aussitôt interjeté appel, suspendant ainsi l'ordre de retour en prison. Jacob Zuma, 79 ans, a été condamné en juillet dernier à 15 mois de prison pour obstruction à la justice après avoir, à maintes reprises, refusé de se présenter devant une commission d'enquête sur des cas de corruption durant sa présidence. En Gambie, le parti de l'opposant Usainu Darboe indique avoir demandé à la Cour suprême d'annuler la réélection proclamée du chef de l'État sortant, Adama Barrow, à la présidentielle. Il l'accuse de multiples irrégularités, dont l'achat de voix. Adama Barrow, dont l'arrivée à la tête du pays il y a 5 ans avait mis fin à plus de 20 années de dictature, a été déclaré vainqueur par la commission électorale de la présidentielle du 4 décembre dernier, avec environ 53% des voix contre environ 27% pour le principal de ses 5 concurrents, Usainu Darboe. Le scrutin se joue un tour en Gambie. Le Tseboudjian fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO l'a révélé aujourd'hui. Le Tseboudjian, ou riz au poisson en langue wolof, c'est un plat très populaire au Sénégal. Honneur aux Seychelles également, car le Moutilla, danse héritée des esclaves africains, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, consacrant aux yeux du monde cet emblème national de l'archipel. Et puis, sachez que la rumba congolaise, puis hier, a aussi rejoint le patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Rwanda, le Kenya, le Maroc, davantage de pays africains indiquent avoir détecté leur premier cas de Omicron, variant du Covid-19 qui continue de se propager à une allure fulgurante sur l'ensemble de la planète. Les derniers développements avec Rosine Munezero.
Depuis que ce nouveau variant fortement muté a été détecté pour la première fois en Afrique australe le mois dernier, il a été signalé dans 77 pays selon l'OMS. Le nouveau variant Omicron pourrait devenir dominant parmi les infections de Covid-19 en Europe d'ici mi-janvier, a mis en garde mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ajoutant qu'il y avait désormais assez de vaccins pour tous les Européens. Le Kenya a détecté au moins 3 premiers cas du variant Omicron chez des voyageurs arrivés dans le pays, a annoncé mercredi le ministre de la Santé. Le Rwanda, qui a détecté 6 premiers cas de ce variant, a annoncé de nouvelles restrictions contre le Covid-19, comme la fermeture des boîtes de nuit et l'extension de la quarantaine pour les voyageurs internationaux. La pandémie a fait plus de 5 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles mercredi. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec plus de 800 000 morts, devant le Brésil, l'Inde, le Mexique et la Russie.
Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine a dû écourter sa tournée en Asie du Sud-Est en raison d'un cas de Covid-19 dans la délégation voyageant avec lui, l'étape de Bangkok, où Anthony Blinken devait rencontrer des responsables thaïlandais demain, est annulée. Pour diminuer les risques, et le secrétaire d'État va retourner à Washington, indique son porte-parole. Bangkok devait être la troisième et dernière étape de ce périple asiatique après Jakarta et Kuala Lumpur. Le secrétaire d'État américain avait débuté sa tournée par une réunion ministérielle du G7 à Liverpool, au Royaume-Uni, au cours du week-end dernier et devait initialement s'arrêter à Hawaï sur le chemin du retour. Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne en Haïti hier s'est aggravé à 66 morts après le décès de 4 personnes blessées. C'est ce qu'indique Patrick Almonor, maire adjoint de Cap-Haïtien, la deuxième ville d'Haïti dans le nord du pays, ville endeuillée par le drame. D'après Patrick Almonor, le chauffeur du camion-citerne aurait tenté d'éviter une collision avec un taxi-moto, perdant ainsi le contrôle de son véhicule qui s'est renversé. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques. C'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza ce soir.
Au Ghana, la ministre du Développement de la Pêche et de l'Aquaculture a lancé les travaux de construction d'un centre national pour l'aquaculture dans la région du Grand Accra, d'un coût total de près de 10 millions de dollars. Ce projet intègre aussi une ferme piscicole commerciale, indique l'agence Ecofin. Au Ghana, le poisson est la source privilégiée de protéines animales dans l'alimentation humaine. Le pays dépend à hauteur de 45% des importations pour répondre à ses besoins en consommation de poissons, estimés chaque année à plus de 750 000 tonnes. Les élus du Congrès américain ont approuvé mercredi, peu après minuit, un projet de loi qui permettra aux États-Unis d'honorer leurs paiements jusqu'à début 2023. Le texte prévoit de relever la limite d'endettement du pays à un peu plus de 31 000 milliards de dollars. Il y avait urgence et devait à tout prix être relevé le 15 décembre au plus tard, sans quoi l'Amérique n'était plus en mesure d'honorer ses paiements à ses créanciers. Cette situation aurait plongé dans l'inconnu la finance et l'économie américaine, mais également internationale, au risque de provoquer une récession. Plusieurs dizaines de pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, se sont engagés mercredi à intensifier les discussions sur la pollution plastique, les subventions aux combustibles fossiles et le commerce écologiquement durable. Le commerce peut et doit agir en faveur de l'obtention de résultats en matière de développement durable pour les populations du monde entier, a déclaré la directrice générale de l'OMC.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec au micro Élisée Oumpatine. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de foot au Cameroun se rapproche et à moins d'un mois du début de la compétition. Le stade qui accueillera le match d'ouverture et la finale est prêt, selon le secrétaire général de la CAF, une nouvelle fois en visite dans le pays. Les travaux du stade Olympe de Yaoundé, qui devait être livré fin novembre dernier, avaient pris du retard, mais hier, Véron Mosengo Umba s'est voulu des plus rassurants.
C'est magnifique. C'est un des plus beaux stades que j'ai jamais vu. J'aurais aimé être joueur pour jouer dans ces. Ça, c'est ma quatrième visite. Les choses avancent très bien. Il y a certaines choses qui m'inquiétaient auparavant. J'ai reçu des certitudes et des constructeurs et des maîtres de l'ouvrage et des maîtres de l'œuvre aussi. Je suis très content. Ouais.
Véron Mosengo, secrétaire général de la Confédération africaine de football, au micro de la CRTV, la télévision publique camerounaise. Au même moment, l'instance fêtière du foot africain a dévoilé la liste des arbitres retenus pour officier lors de la compétition. Ils seront au nombre de 64, dont 9 arbitres VAR. On retrouve toutes les pointures du continent, comme le Gambien Bakary Gassama, le Zambien Janis Ikazoé et l'Éthiopien Bamlak Tesema, tous présents au Mondial de 2018. On retrouve aussi le Marocain Redouane Tchied, l'Algérien Moustapha Goubal ou encore le Sud-Africain Victor Gomez. Le Sénégalais Maguette Ndiaye, récemment critiqué après son match Ghana-Afrique du Sud qualificatif pour le Mondial 2022, y sera aussi. En revanche, le Camerounais Sidi Alioum, qui a officié la finale de la dernière CAN, n'a pas été retenu. Mais le pays hôte sera tout de même représenté par Blaise Youven Ngoua. Rappelons que la VAR sera utilisée lors de l'ensemble des 52 matchs de la compétition. Et comme en 2019, l'arbitre français Benoît Milo sera là pour apporter son expérience au niveau de cette technologie, tout comme l'Américain Ismail Efat et le Canadien Drew Fisher, issus de la zone CONCACAF. Cyclisme pour terminer, Biniam Guimei a nouveau élu coureur africain de l'année. Le coureur érythréen a été élu cycliste africain de l'année 2021 par les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo, une course à l'étape annuelle qui a lieu au Gabon. Médaillé d'argent au championnat du monde sur route espoir en septembre dernier, il avait déjà décroché la distinction en 2020. Âgé de 21 ans, Guimei avait lancé sa carrière chez l'équipe Matéz Delco en 2019.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Le tête-à-tête est très attendu. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, se rend à Bamako lundi prochain pour rencontrer le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, avant de célébrer Noël avec des soldats français stationnés à Gao. Le voyage intervient alors que les relations entre Paris et Bamako se sont tendues ces derniers mois, notamment autour de l'annonce de l'arrivée du groupe de sécurité privée russe, Wagner, et autour du calendrier des échéances électorales au Mali. Que pensent les Maliens de cette visite programmée d'Emmanuel Macron au Mali? Quelques-uns de leurs avis avec Mariam Kouyaté à Bamako.
Dans les rues de la capitale, les avis divergent sur l'arrivée de Macron à Bamako.
Le fait que beaucoup de choses soient imposées aux Maliens, voilà, ça quand même, dans un partenariat, ceci n'est pas acceptable, voilà. Et il doit avoir une relation avec le peuple français, ou soit avec la France, la politique française. Et il faudrait quand même que ce soit du gagnant-gagnant. La France ne voit pas le Mali comme un pays toujours sous domination coloniale. Voilà, il faudrait quand même qu'à un certain niveau, que ces histoires-là vraiment cessent. Voilà, donc le peuple malien mérite respect et considération.
Ce même Macron qui a traité les autorités maliennes d'illégitimes, d'illégales, il a traité le gouvernement de Choguel de gouvernement démocratiquement nul. Ces propos qu'il a, il a tenus haut et fort. Mais quand on voit ce même Macron se présenter au Mali et dans l'intention de discuter avec ces mêmes autorités, mais vous voyez à quel point le paradoxe est immense, le paradoxe est flagrant. Donc c'est pour dire que pour la France, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas de normes, il n'y a que la fin qui compte. Alors donc, avec un partenaire comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que les pays pensent? La France n'est aucunement pas un partenaire crédible. Donc franchement, je crois que c'est une visite qui n'a strictement aucun sens, franchement.
Pour certains, l'arrivée de Macron sera un coup de pouce pour le Mali en tant que pays partenaire.
Peu importe la situation, peu importe la tension entre les pays, il faut toujours trouver un terrain d'entente. Que le président français se déplace, cela veut dire que la transition est sur la bonne voie. Espérons vite qu'il y ait un consensus sur un terrain d'entente.
Tout d'abord, je pense que cette rencontre doit être une bonne occasion. Il faut aujourd'hui que les uns et les autres s'écoutent en tant que pays partenaire, mais aussi en tant que pays souverain, ayant les mêmes objectifs, à savoir lutter contre le terrorisme, mais également soucieux de préserver leur souveraineté et, comme on appelle, la stabilité dans les différents pays.
Emmanuel Macron au Mali, c'est pour venir rétablir la confiance entre le Mali et la France, vu la situation qui prévaut entre Bamako et Paris.
Mariam Kouyaté, Bamako pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, un militant pro-démocratie a été tué dans la nuit de lundi à mardi dans la ville de Goma. Il s'agit d'Edison Kambale du mouvement Lutte pour le changement, Lucha RDC Afrique, une dissidence de Lucha. D'après l'ONG, l'homme a été abattu par balle à moins de 10 mètres du camp de policiers de Mounzenze. L'ONG demande au gouvernement congolais et à la communauté internationale d'enquêter sur ce qu'elle qualifie d'assassinat, comme nous le rapporte notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Lors des rassemblements pour le deuil, de nombreuses personnes sont inconsolables. Elles sont venues soutenir la famille d'Edson Kambale, qui était un militant actif du mouvement citoyen Lutte pour les changements, RDC Afrique, section de Goma. La victime a été assassinée par balle alors qu'elle s'est rendue à l'endroit où elle passait la nuit, dans la commune de Karisimbi, comme en témoigne sa famille.
C'était vers 19h35 qu'il quittait à la maison pour se rendre chez lui, là où il passe nuit. Cours de route, c'est là où il avait rencontré les gens, ces mauvaises orientations qui lui ont maltraité, mal intimidé. Il a vu tout ce qu'il avait, même une carte d'identité. Par après, il avait fui dans une parcelle, là où on lui avait tiré des coups de balle, trois coups de balle. Directement, il est tombé par terre et mort sur
le
champ.
Les autres membres de ces mouvements citoyens recommande au gouvernement congolais et à la communauté internationale de s'impliquer afin de faire la lumière sur cet assassinat dans la ville de Goma. Espoir Aspirine, l'un d'entre eux, demande au service de sécurité de la République démocratique du Congo de veiller à l'utilisation des armes à feu.
Nous recommandons au gouvernement provincial et national, même à la communauté internationale, de veiller sur les défenseurs des droits de l'homme. Deuxième des choses, nous les recommandons qu'on puisse mener des enquêtes sérieuses afin de décider qui serait l'auteur de la mort de notre compatriote. De trois, nous recommandons au service de sécurité de bien veiller sur l'utilisation de leurs armes. C'est complètement inacceptable. Les activistes des droits de l'homme sont maintenant visés partout sur l'étendue nationale. Nous demandons qu'il y ait protection des défenseurs des droits de l'homme. L'activisme n'est pas un crime.
Pour Josué Walaï, figure de pro de ces mouvements citoyens, au-delà de se saisir rapidement du cas de l'assassinat de l'un des leurs, les militants des autres mouvements citoyens doivent continuer à se battre.
Nous continuons toujours à appeler la justice congolaise de se saisir de ces dossiers et qu'une enquête soit ouverte d'une manière rapide, en fait, que les responsabilités soient vraiment établies. C'est l'arme qui est censée sécuriser M. Edison Kambale qui lui a tué. Ces éléments qui sont censés nous sécuriser, qui sont en train de nous insécuriser. Cette restriction des libertés ne doit pas continuer. Nous appelons tous les militants, tous les activistes de continuer toujours la lutte qu'Edison Kambale menait, et cette lutte ne finira jamais, la lutte continue.
En attendant son enterrement, la dépouille d'Edson Kambale se trouve à la morgue de l'hôpital général du Nord Kivu. Son assassinat intervient alors que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont en plein état de siège depuis le 6 mai 2021. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
L'Afrique ne pourrait atteindre l'objectif des 70% de vaccinés contre le Covid-19 qu'en août 2024, d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui appelle encore une fois à une accélération des campagnes de vaccination pour sauver beaucoup de vies. La barre des 70% est vue comme primordiale pour contrôler la pandémie. À la date du 13 décembre, seulement 20 pays africains avaient vacciné au moins 10% de leur population. Seulement 6 avaient atteint les 40% de vaccinés et seulement 2, à savoir l'île Maurice et les Seychelles, étaient à 70%. Pour une analyse, John Linden, adjoint docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince George dans l'état américain du Maryland.
Nous savons que les vaccins contre la COVID sont une voie critique pour mettre fin à la pandémie et avoir ce pourcentage est vraiment très, très important pour pouvoir prétendre vraiment à éradiquer cette pandémie. Et maintenant, le fait que l'Afrique ne puisse atteindre ce numéro qu'en 2024 est déjà très, très ambitieux pour différents facteurs, cher monsieur. Nous découvrons en fait que ce n'est pas seulement l'accès au vaccin, c'est aussi la perception de la population, c'est aussi l'acceptation de la population c'est aussi plusieurs facteurs démographiques, socio-culturels qui rentrent en jeu ici.
Alors, justement, pourquoi la vaccination a-t-elle tant de mal à passer en Afrique? Pourquoi les gens ne veulent pas se vacciner?
Eh bien là, nous pourrons commencer tout un autre débat. Hein. Les gens ne veulent pas se vacciner pour plusieurs raisons. D'abord, il y a l'information. L'information, la perception du vaccin. Il y a aussi le fait que les gens ne perçoivent pas la COVID-19 comme étant vraiment une réelle menace. Peut-être c'est parce que le nombre de morts n'a pas été élevé, le nombre de gens malades n'ont pas été palpables comme dans certaines autres parties du monde. Il y a aussi les facteurs culturels, il y a les croyances, les théories de complotisme, les théories du fait qu'on veuille déverser tout ce qui n'est pas bon à l'Afrique. Donc il y a toute une multitude de facteurs qui rentrent en jeu, qui font que, outre à l'accès, outre à la disponibilité pour la population, il y a beaucoup, beaucoup de barrières qui vont nous prévenir d'arriver à ce numéro-là et qui est si, si critique pour aspirer à une éradication de la pandémie chez nous.
Compte tenu de ce que vous venez de dire, que faut-il faire pour que plus de personnes acceptent de se faire vacciner sur le continent?
Bon, concrètement, je pense que d'abord, il faut que nos autorités sanitaires locales, nos gouvernements puissent faire des campagnes de masse effectives pour la vaccination. Essayer d'expliquer aux populations pourquoi ils se font vacciner. Écoutez, c'est comme, je prends l'exemple un peu de la ceinture de sécurité quand on est dans une voiture. La ceinture de sécurité ne vous empêchera pas d'avoir un accident, mais elle pourra faire de sorte que si vous avez un accident, vous ne mourriez pas.
C'était Dr Suna Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince George dans l'état américain du Maryland. Au Gabon, la course pour l'obligation vaccinale a démarré malgré l'appel à la ville morte d'une partie de la société civile contre l'entrée en vigueur aujourd'hui de la fin de la gratuité des tests PCR et l'interdiction faite aux personnes non vaccinées d'accéder aux lieux publics et de circuler au-delà des heures de couvre-feu. Le gouvernement maintient ses mesures anti-Covid. Si Libreville présentait les allures d'une ville fantôme ce matin, la tendance générale demeure néanmoins à la vaccination. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangvé.
À Libreville, pas besoin d'aller loin, ni d'attendre bien longtemps pour croiser les réticents du vaccin.
Nous allons faire comprendre au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord pour la vaccination obligatoire.
Nous avons une panoplie des vaccins. Nous ne savions même pas quel vaccin notre pays a choisi réellement.
Dans la capitale gabonaise, qui expérimente l'entrée en vigueur de nouvelles mesures anti-Covid, les pros et les anti-vax se livrent une véritable bataille de communication.
Ceux qui ne veulent pas parler du vaccin, eh bien je crois que c'est une forme d'irresponsabilité que nous ne pouvons accepter.
Et si le gouvernement met des moyens afin que la population vienne se faire vacciner gratuitement, je suis venu ce matin prendre ma dose.
Preuve d'une population qui veut en finir avec les hésitations sur la vaccination. Les centres sont surchargés par les demandes d'usagers. Ces dernières heures, ce sont surtout ceux qui ne voulaient pas se faire piquer qui font les rangs. Le personnel de santé semble bien débordé. Paralik Mombo, responsable adjoint du site de vaccination de l'ancienne gare routière.
Et nous avons mis en place une liste, nous recevons les 200 personnes, mais tous ceux qui sont là ne sont pas répartis sur la liste, en demandant donc aux autres de venir demain.
D'ici fin décembre, le Gabon compte vacciner au moins 50% de sa population, mais il est encore loin du compte. Le taux de couverture vaccinale complète se situe autour de 15%. Dans la foulée, les cris des frustrés de l'opération se font entendre depuis quelques heures.
Les gens sont là depuis 6h, 5h. Quand leurs équipes arrivent, ils font des priorités. Ils prennent des gens qui arrivent, donc on remarque qu'ils font beaucoup plus de business que des vaccins réels.
Le plan d'allègement des restrictions sanitaires mises en exécution par le gouvernement accorde un régime préférentiel aux vaccinés. Malgré les protestations d'une partie de la société civile sur la question, les autorités ne lâchent rien. Lambert Noël Mata, ministre gabonais de l'Intérieur.
Il est fait obligation aux personnes non vaccinées souhaitant accéder aux lieux publics, notamment les administrations, les entreprises, les restaurants, les snack bars, de présenter un test PCR négatif en cours de validité.
Parallèlement à leur appel à une ville morte, largement suivi une partie de la journée de ce 15 décembre à Libreville, les antivax regroupés au sein d'un collectif appelé Copil Citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter l'annulation de ces mesures. Elle dispose d'un mois pour se prononcer sur cette requête. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro, je vous souhaite une très belle soirée.